Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a passé 2 années en prison pour un braquage qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui innocenté et indemnisé par la justice, Youssef Zouini, 36 ans, est devenu comédien. Il joue un braqueur dans un film d'Olivier Marchal en cours de tournage. Le Parisien a fait son portrait le 26 décembre et chez Code Source, nous avons eu envie d'entendre Youssef Zouini nous raconter sa vie et l'erreur judiciaire qu'il a subie. Il se confie aujourd'hui au micro d'Ambre Rosala.
Youssef Zouini m'accueille chez lui, dans son appartement du 9e arrondissement de Paris, près des grands boulevards. Il est assez grand et fin, et il est habillé tout en noir, les cheveux impeccablement coiffés et le regard perçant. Nous nous installons sur le canapé dans le salon, et il commence à me raconter son enfance. Youssef est né à Nantes et a grandi dans le quartier Malakoff, un quartier sensible de la ville, avec ses parents, tous les deux originaires du Maroc. La mère de Youssef est femme de ménage, et son père est cuisinier. Adolescent, c'est un garçon plutôt sérieux et réservé.
Je me sentais un peu différent des autres. Par exemple, je voyais beaucoup de copains à moi qui fumaient, moi je fumais pas. J'avais jamais touché une cigarette, j'ai jamais touché une goutte d'alcool. Et puis dans la jeunesse dans laquelle on grandissait et le quartier dans lequel je grandissais, c'était quand même assez présent. Quand je voyais la plupart de mes copains commencer à fumer au collège, au lycée, etc., j'étais le seul de la bande en fait à chaque fois qui touchait à rien.
À sa majorité, Youssef entame un BEP dans la vente. Et à 19 ans, il se met en couple avec une fille, Sabrina, qu'il a rencontrée au lycée quelques années plus tôt.
J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de sérieux et puis de bien. Je souhaitais à l'époque me marier jeune pour profiter de ma jeunesse encore avec ma femme. Et donc, c'était une relation où on a tout de suite voulu la même chose tous les deux.
Youssef et sa famille déménagent dans un quartier tranquille de Nantes. Mais le jeune homme retourne régulièrement à Malakoff pour voir ses copains. Le 31 octobre 2004 au soir, Youssef arrive dans son quartier d'enfance pour fêter Halloween.
Voilà, il y avait une bonne atmosphère, il y avait une bonne ambiance, il y avait des jeunes avec des masques. J'ai vu un petit jeune qui avait un masque du film d'horreur Scream avec une langue qui pendouille sur le côté. J'ai été tout de suite attiré par ce masque-là et donc j'ai demandé au petit jeune de me le passer, donc il me l'a passé. Donc j'ai gardé le masque, j'ai fait un petit peu le fou avec au sein du quartier. J'ai croisé un autre jeune que j'avais connu au collège. Il m'a vu avec le masque, il a tout de suite eu envie de l'avoir pour déconner avec. Donc il m'a saoulé, il m'a dit « mais fais voir ton masque, prête-le-moi 2 minutes ». Je lui ai dit « mais attends, je viens de l'avoir », etc. Et finalement, j'ai fini par lui prêter le masque.
6 mois plus tard, le lundi 4 avril 2005, au petit matin, Youssef dort tranquillement chez lui. Il a 20 ans. Et il doit se lever dans quelques heures pour se rendre dans un magasin de prêt-à-porter, en centre-ville, pour son premier jour de stage. Il est réveillé en sursaut à 6 heures du matin.
La porte de mon domicile est fracturée et enfoncée par des policiers qui envahissent mon domicile et qui m'interpellent. Donc, un réveil assez brutal parce que j'ai été surpris. La première question que le policier m'a posée, il m'a dit « écoute, j'ai une question pour toi, Youssef. T'as combien de voitures ?» Je lui dis « j'ai une voiture, c'était une Peugeot 106 que j'avais à l'époque, qui était garée juste en bas de mon domicile. » Et il m'a dit « t'es sûr, t'as qu'une seule voiture ?» Je dis « oui ». Il m'a mis une grosse claque. Et quand il m'a mis une claque, t'as un des policiers qui est venu qui l'a bousculé. Parce que l'autre n'a pas accepté qu'il me frappe, ils se sont bousculés, ils ont commencé à se bagarrer. Du coup, il y a une bagarre de policiers dans ma chambre, moi qui est en pyjama, menotté, je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, du coup, on m'informe que je suis placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de braquage et de séquestration. Et je me suis dit que ça n'allait pas aller bien loin.
Le braquage dont parlent les policiers a eu lieu 6 mois plus tôt. Le 1er novembre 2004, le lendemain d'Halloween, 3 hommes ont braqué un supermarché de Nantes avant l'ouverture du magasin, séquestrant 17 employés pour un butin de 45 000 euros. Youssef ne le sait pas encore, mais son ancien camarade de classe, à qui il avait prêté son masque de Scream le soir d'Halloween, a été interpellé quelques semaines auparavant. Ce dernier minimise son rôle dans le braquage, assurant n'être jamais entré dans le supermarché, et donne aux policiers 3 noms des 3 hommes qui, selon lui, auraient braqué le magasin. Et parmi ces 3 noms, il y a celui de Youssef Zouini.
Quand on m'a placé en garde à vue, on m'a dit « Voilà, monsieur Zouini, on va vous présenter un certain nombre d'objets et vous allez nous dire ce que vous reconnaissez parmi ces objets. » Donc, on m'a présenté des cagoules, des armes, des gants, etc. Pas mal de choses. Et lorsque j'ai vu le masque de Scream, je l'ai reconnu spontanément. Donc, j'ai dit « Mais je reconnais ce masque-là, c'est le mien. » On m'a dit « Mais vous êtes certain que c'est votre masque ?» J'ai dit « Mais écoutez, je me souviens très bien, je l'ai eu le soir d'Halloween, je l'avais remis à un copain et depuis, je l'ai plus jamais revu, ce masque-là, on me l'a plus jamais redonné. » Donc, les policiers ont entendu ce que j'ai dit. Ils ont attendu que je signe mon procès-verbal. Et une fois que j'ai signé mon procès-verbal, on me dit « Bah écoute, tu vas être dans la merde parce que le masque que t'as reconnu, il a été reconnu par toutes les victimes du braquage. Toutes les victimes sont formelles, ce masque-là était bien porté par l'un des braqueurs. » Et moi, j'ai tout de suite répliqué en disant « Mais écoutez, je suis tout de même pas stupide pour vous dire que le masque m'appartient si je sais que j'ai fait un braquage avec et vous ne l'avez même pas retrouvé chez moi. » Ils nous ont confrontés, moi et mon accusateur, qui a dit que le masque m'appartenait, donc chose que j'ai reconnue, mais sauf que lui disait que c'était moi qui étais venu déposer le masque chez lui à son insu. J'ai dit au policier, mais écoutez, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. On s'est retrouvé à être déféré au parquet, et on est arrivé devant un juge d'instruction qui m'a dit, monsieur Zouini, vous êtes monté dans le train, je vais vous amener au terminus. Et donc du coup, le juge d'instruction m'a mis en examen, et a demandé mon placement en détention provisoire, et j'ai été placé en détention. Lorsque j'arrive à la maison d'arrêt de Rennes, et que j'ai le grand portail qui s'ouvre, et que la voiture de la Xara grise de la police judiciaire s'engouffre dans l'enceinte de la maison d'arrêt, et que je suis descendu menotté, c'est tout de suite le choc, quoi, de prendre un paquetage avec des couvertures, un bol, un couteau avec le bout arrondi, et d'être conduit dans une cellule. Je vois des barreaux à mes fenêtres. Et là, je me dis, mais quel cauchemar je suis, quoi.
À peine arrivé, Youssef demande à avoir du papier et un stylo. Et il se met à écrire des dizaines de lettres par jour au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, ou encore à la garde des Sceaux, Rachida Dati, pour clamer son innocence. Il assure que cette nuit-là, il était avec sa petite amie Sabrina. Il propose de se confronter aux victimes du braquage et jure qu'elles ne le reconnaîtront pas parce qu'il n'était pas dans le supermarché cette nuit-là. Mais ses lettres restent sans réponse. La petite amie de Youssef, elle, ne lui a plus donné de nouvelles depuis son interpellation. Et Youssef vit de plus en plus mal la détention.
Je me sentais un peu seul, mais je me sentais surtout différent du reste de la population. Et puis je me disais, mais moi j'ai rien à faire là. C'est toujours difficile de se mélanger aux autres. Et puis de rigoler, parce que moi je refusais de rigoler en prison. Je refusais de rigoler parce que ça me faisait pas rire, moi, le fait d'être là. Ce qui était difficile pour moi, ça n'a pas été l'enfermement en soi, c'était le fait de n'avoir rien fait. De rien avoir à se reprocher, de rien avoir à regretter le soir en s'endormant dans sa cellule. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est pas rien, quoi.
En 2017, à 2 mois du début de son procès, l'avocat commis d'office de Youssef lui informe que les téléphones des 4 prévenus ont été analysés. La nuit du braquage, 3 téléphones s'éteignent au même endroit, à la même heure, et ne se rallument qu'en début d'après-midi. Le 4e téléphone, celui de Youssef, reste allumé toute la nuit, depuis chez lui. Et ses relevés de téléphone montrent qu'un appel de 2 heures a été émis pendant le braquage. Youssef comprend alors qu'il s'est trompé dans son emploi du temps. Cette nuit-là, il n'était pas avec sa petite amie, mais au téléphone avec elle. Comme c'était la période du Ramadan, Ils avaient l'habitude de s'appeler toutes les nuits quand ils n'étaient pas ensemble. Et Youssef se dit que ses relevés de téléphone vont enfin pouvoir prouver son innocence. Au mois de juin, le procès de Youssef et des trois autres prévenus s'ouvre devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. Youssef se retrouve face à un jury composé de 6 citoyens tirés au sort et 3 magistrats qui devra décider de la culpabilité ou non des accusés.
Quand on arrive devant une cour d'assises, quand on est innocent, la dernière des choses qu'on a envie de faire, c'est de s'expliquer. Moi, j'avais envie de me lever, j'avais envie d'insulter toute la cour d'assises, mais je n'ai même pas à m'expliquer devant vous. Vous êtes qui, vous, pour... Vous, expliquez-moi, qu'est-ce que moi je fais devant vous? J'ai pas à m'expliquer devant qui que ce soit. Je suis aussi libre que vous tous, là. J'ai même pas envie de m'expliquer. C'est dur de ne pas perdre son sang-froid. Mais voilà, on sait que c'est... Voilà, ça se passe pas comme ça. Il faut faire bonne impression et qu'on le veuille ou non, c'est ces personnes-là qui vont décider de votre avenir.
Pendant l'audience, aucune victime ne reconnaît Youssef Zouini. 3 experts psychologiques estiment que sa personnalité n'est pas compatible avec les faits. Et le chef d'enquête de la police judiciaire vient rendre ses conclusions à la barre.
Qui explique voilà, qu'il a rassemblé des éléments contre les 3 autres accusés, il explique pourquoi, etc. Et lorsqu'il referme son dossier et qu'il retourne à sa place, il y a le président de la cour d'assises qui le rappelle, qui lui dit « Mais monsieur Zouini, vous n'en avez pas parlé ?» Et le chef d'enquête de la police judiciaire, qui était en charge de cette enquête, qui dit « Écoutez, monsieur Zouini, pour moi, il n'était pas avec eux ce soir-là. On a un élément qui permet de démontrer qu'il était au téléphone cette soirée-là, et pour moi, monsieur Zouini n'était pas avec eux cette nuit-là. Il n'a pas pu participer au fait. » Malgré ça, quand la sonnette est tirée et qu'on remonte au moment du délibéré et que j'entends 10 ans de réclusion criminelle, mais là, c'est la foudre là qui m'a électrocuté, quoi. On m'a mis 10 ans et on est parti se coucher comme si rien ne s'était passé le 17 juin. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est le monde là qui a arrêté de tourner pour moi.
Youssef Zouini fait appel. De retour en prison, il s'inscrit à plusieurs ateliers pour passer le temps en attendant l'ouverture d'un nouveau procès. Il s'inscrit au foot, aux cours d'anglais et de français, mais aussi à l'atelier théâtre.
Lorsque je me suis inscrit à l'activité théâtre, c'était vraiment pas pour en faire, c'était uniquement pour sortir de ma cellule. Pendant un moment, j'ai oublié ma condition de détenu, parce que je voyais plus de surveillants, je voyais plus de barreaux, je voyais plus rien, je voyais le monde dans lequel je m'imaginais. Parce que j'étais dans la peau d'un personnage et j'oubliais un instant ma personnalité, ma personne, j'oubliais mes soucis, j'oubliais tout. Et le soir, au premier cours de théâtre, le soir même, quand j'ai allumé la télé dans ma cellule, je commençais à regarder un film et puis je voyais plus du tout les acteurs de la même façon. J'étais déjà en train d'essayer de me mettre à la place de ces acteurs-là. Et puis moi, quand je regardais les acteurs, j'étais en admiration. Parce que je me disais, mais tu vois, ces gens-là, finalement, Youssef, ils t'accompagnent partout, quoi. Que tu sois à l'extérieur ou que tu sois à l'intérieur, ils sont là. À chaque fois que tu allumeras ta télé, ils seront toujours là.
Youssef se met également à lire. Il emprunte des grands classiques à la bibliothèque de la prison et récite des pièces de Molière à haute voix dans sa cellule. Quelques mois avant l'ouverture de son procès en appel, pour s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec ses supposés complices, Youssef est placé à l'isolement. À travers les barreaux, il sympathise avec son voisin de cellule et entend parler pour la première fois du cours Florent, cette prestigieuse école de comédie à Paris. Youssef se met alors à rêver de devenir acteur. Son deuxième procès s'ouvre aux assises en mai 2009. Youssef a 24 ans, il a changé d'avocat, et Sabrina, son ancienne petite amie, a été convoquée en tant que témoin. C'est la première fois qu'il la revoit depuis son interpellation. Elle le fuit du regard, mais confirme qu'elle était bien au téléphone avec Youssef la nuit du braquage. Le verdict tombe le 14 mai 2009.
Je me suis levé. On m'a dit, voilà, après avoir délibéré, la cour d'assises vous acquitte des faits qui vous sont reprochés. Je suis sorti de la salle d'audience et j'ai mis un coup de pied sur la barrière de sécurité. Et c'était de la colère, tout de suite de la colère. Aucun soulagement, quoi. Aucun. Je peux pas être soulagé de quelque chose que je mérite parce que ma liberté, je l'ai pas volée. Donc... Je peux pas me soulager après avoir passé toutes ces années en prison, après toute cette souffrance qu'on m'a infligée, après toute cette jeunesse qu'on m'a volée, tout ce qu'on m'a fait subir, 2 comparutions devant une cour d'assises. Je peux pas être content parce qu'au final on se dit mais tout ça pour ça.
Après son acquittement, Youssef tombe dans les bras de sa mère. Et quelques jours seulement après son procès en appel, il saute dans un train en direction de Paris et passe une audition pour entrer au cours Florent.
On m'a demandé de prendre un objet, d'aller sur scène et de raconter une petite histoire. Donc évidemment, je saute sur mon téléphone portable. Et en plus, c'était le téléphone portable avec lequel j'étais en communication le soir des faits. Je l'avais encore. Et j'arrive sur scène et j'explique que ce téléphone m'a sauvé la vie parce qu'il m'a permis de retrouver ma vie, etc. Et mes proches. Alors les profs voulaient en savoir un peu plus. Est-ce que t'as pu échapper à la mort de peu, de justesse, et puis t'as pu appeler du secours à temps? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux téléphone? Je dis, écoutez, j'étais victime d'une erreur judiciaire, j'ai été condamné à 10 ans de prison pour une affaire de braquage et je viens de sortir il y a quelques jours. Et en fait, on a établi que j'étais en pleine communication téléphonique, en plein braquage, et c'est ce qui m'a totalement innocenté. La prof, qui était une prof du cours Florent, qui s'appelle Christine François, qui est réalisatrice, qui a fondu en larmes parce qu'elle était complètement touchée. Je reçois un courrier 3-4 jours après dans ma boîte aux lettres. Et on me dit, admis en première année, c'est juste, subtil, nuancé, tout ce dont rêve un réalisateur. Donc c'est mot pour mot ce qui était écrit. Je me suis dit, il y a une nouvelle vie qui va commencer à se dessiner pour moi en septembre. J'étais content, quoi.
Touché par l'histoire de Youssef, le directeur de l'école décide de lui offrir les frais de scolarité. Youssef s'installe alors à Paris et sort diplômé du cours Florent en 2017. Puis il écrit 2 livres sur son histoire, qui sortent en 2018 et en 2019. Sans agent artistique, Youssef contacte lui-même plusieurs réalisateurs et réalisatrices, dont Olivier Marchal, grâce à des relations qu'il a nouées à l'école, pour leur dire de le prévenir si jamais il lance des castings pour un prochain film. Sans vraiment de réponse, Youssef décide de partir au Maroc avec sa mère pour se ressourcer.
En septembre dernier, je reçois un coup de téléphone d'Olivier Marchal, qui m'appelle, qui me dit « Voilà, Youssef, on va t'appeler, là, il faut que tu rentres à Paris, tu vas passer les essais là pour mon film, donc tu rentres. » Donc je saute dans le premier avion, 2 jours après. J'étais dans l'avion, je connaissais déjà mon texte. Et donc je suis arrivé à Paris et j'ai passé mon premier casting devant un des plus grands directeurs de casting pour un des meilleurs réalisateurs français, qui est Olivier Marchal. Et donc je reçois un message d'Olivier le soir même, en me disant qu'il était très content des essais et très content du retour que lui avait fait déjà le directeur de casting et que c'était bon pour lui, quoi.
Le tournage du prochain film d'Olivier Marchal débute en décembre 2021. Youssef, qui a décroché le rôle d'un gangster, s'estime chanceux de faire ses premiers pas au cinéma avec un réalisateur aussi réputé.
Quand la caméra d'Olivier est en marche et qu'on te dit « action », on se dit... on est dedans, quoi. On a un pied dedans, on va tout faire pour y rester. Je sais que la route, elle est encore longue, j'ai encore beaucoup de travail à faire, j'ai encore mes preuves à faire. Et je sais que si j'avais pas été victime d'injustice, je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a eu aussi ces événements dans ma vie. Et puis j'espère qu'un jour, je pourrai aussi inviter tout le jury de la première cour d'assises et puis le juge d'instruction et puis l'avocat général qui m'ont mis en prison et qui m'ont condamné la première fois, les inviter à une avant-première d'un de mes films et de leur dire merci parce que vous avez aussi contribué à cette belle affiche de cinéma et vous êtes aussi les principaux responsables de ma réussite parce que vous m'avez beaucoup aidé en fait, vous m'avez donné de la force.
Ambre, Youssef Zouini a commencé le cours Florent en 2009, il a terminé son cursus en 2017 seulement, ça a pris plus de temps que d'habitude, on sait pourquoi ?
Oui, en fait, il a fait sa première année au cours Florent, mais psychologiquement, ça n'allait pas trop, il était encore traumatisé par ce qu'il avait vécu, donc il a préféré arrêter un temps, il s'est installé au Maroc avec sa mère pour souffler un peu. Il en a profité pour écrire ses 2 livres qui ont agi un peu comme une thérapie. Et une fois que ça allait mieux, il est revenu à Paris et il a fini son cursus au cours Florent jusqu'à son diplôme.
Et là, il participe donc au tournage d'un film d'Olivier Marchal. Est-ce que ça le dérange de jouer un braqueur ?
Non, pas du tout. C'est plutôt un petit clin d'œil qui le fait rigoler. Et pour la petite histoire, Olivier Marchal, le réalisateur, est lui un ancien policier. Et donc, Youssef est assez content que ce soit lui qui le place dans la lumière. Et pour lui, c'est un joli clin d'œil du destin.
Ce film devrait sortir fin 2022 ou début 2023. Est-ce que Youssef Zouini a déjà des projets pour la suite, après ce long métrage?
Oui, alors déjà pour commencer, il veut multiplier les castings pour décrocher de nouveaux rôles. Il a aussi le projet de faire un film sur son histoire. Il a écrit le scénario, donc maintenant il cherche à concrétiser le projet et il aimerait, si ça se fait, jouer son propre rôle pour pouvoir raconter lui-même son histoire au cinéma.
Dernière question, Ambre, il a été victime d'une erreur judiciaire. Est-ce qu'il a été indemnisé pour ça?
Oui, il a reçu une indemnisation. Alors, il ne veut pas dire exactement le montant, mais c'est un peu plus de 35 000 euros. Et pour lui, c'est clairement pas à la hauteur de l'injustice qu'il a subie, parce qu'il a quand même passé 2 ans en prison et 4 ans à batailler pour prouver son innocence. Et pour lui, c'est 4 ans de sa jeunesse qu'on lui rendra jamais.
Merci Ambre Rosala et merci à Robin Corda pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.